y a un an, jour pour jour, était officiellement lancé le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, une instance indépendante chargée de contrôler, éventuellement de signaler des fautes éthiques et déontologiques commises par des journalistes. Mais ce rôle, cette fonction, a été contestée dès l'an dernier par de nombreux médias, par de nombreux journalistes également, parfois avec virulence. Cette opposition existe-t-elle encore aujourd'hui? Comment le Conseil travaille-t-il avec les médias et quel bilan déjà pouvoir dresser pour ce premier anniversaire? Pour répondre à ces questions, Culture Média reçoit son président, Patrick Evenot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le président de ce conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous êtes également professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris 1. D'abord, avant de parler du bilan, pour nos auditeurs qui ne connaissent encore mal le conseil, quoique vous soyez venu l'an passé à la même période, quelques mots sur son rôle et sur son fonctionnement. Il est là pour faire respecter les principes éthiques et déontologiques de la profession. Qui peut le saisir et comment ça se passe une fois que le conseil a été saisi?
Alors, tout citoyen français, mais aussi étranger, peut saisir sur un acte journalistique, c'est-à-dire une émission d'information, hein, ou un article de journal, ou etc., d'information, évidemment, on ne saisit pas sur le divertissement. Tout citoyen peut saisir sur quelque chose qui est destiné au public français. Hein, donc voilà, ça peut être même le président de la République, s'il veut, en Belgique où il y a un conseil de déontologie aussi, le roi des Belges a une fois saisi le conseil de déontologie journalistique.
Ah oui, c'était sous quel prétexte?
C'est parce qu'il estimait qu'il avait été maltraité, qu'on n'avait pas respecté sa vie privée dans une circonstance où il était en famille, je ne sais pas quoi.
Donc chacun peut le saisir. À la suite de quoi? Comment ça se passe?
Alors comment ça se passe? Nous sommes un organe tripartite, hein, c'est-à-dire qu'on a un tiers de journalistes, un tiers de représentants des entreprises, diffuseurs, éditeurs, etc., agences de presse, et un tiers de représentants du public. Ça, c'est très important parce qu'on est toujours tripartite. On a un conseil d'administration qui est le conseil de déontologie qui a 10 membres de chaque collège. On a un bureau où il y a 3 membres de chaque collège, enfin, etc. On est systématiquement tripartite. Quand on reçoit une saisine, on l'examine et puis on fait un premier tri, c'est-à-dire qu'on la déclare recevable ou pas recevable. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous disent « Oui, la place des femmes dans les médias n'est pas bonne ». C'est vrai, mais c'est un truc généraliste, c'est pas sur un acte journalistique particulier. Il y a des gens qui nous saisissent sur la ligne éditoriale. Ils nous disent « Oui, Valeurs Actuelles est à droite et l'Humanité est à gauche ». Oui, bah oui, ça c'est vrai, mais c'est une ligne éditoriale, ils ont bien le droit.
Pardonnez-moi, je souris, vous avez vraiment reçu ce genre de courrier?
Mais oui, mais bien sûr. Donc là, on dit « Non, écoutez, c'est bon ». De même que sur un choix rédactionnel. Quand France 2 parle de la neige pendant 20 minutes parce qu'il neige, c'est un choix éditorial parce qu'ils estiment que leur public attend le bon. Donc ça, c'est pas recevable. Ou bien quand c'est hors délai, ou bien quand c'est une demande de droit de réponse, des choses comme
Alors,
ça.
Alors maintenant, les cas recevables.
Les cas recevables, c'est quand on estime, dans un premier examen, que, effectivement, ça met en cause soit la vie privée, le respect des personnes, soit il y a un conflit d'intérêts, soit il y a une manipulation de l'image ou du son ou de la citation de quelqu'un, enfin bon, etc. Tous ces cas-là qui sont recensés dans les chartes journalistiques qui sont à peu près toutes les mêmes, à ce moment-là, on dit c'est recevable. On désigne une commission de 3 personnes, un journaliste, un représentant des éditeurs, un représentant du public, qui étudie, qui analyse, qui écrit aux médias concernés, aux journalistes concernés, qui fait une sorte d'enquête. C'est plus une analyse qu'une enquête. On n'est pas du tout des policiers, on n'a aucun droit de sanction, on n'a aucune violence.
Pas de sanction.
Aucune sanction, aucune violence policière de notre part, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas des gendarmes, nous n'avons aucune sanction ni financière, ni... C'est simplement, on dit voilà, on analyse, mais en dialogue avec le média. Alors certains médias nous répondent très volontiers et discutent avec nous, et ça aboutit à un dialogue fécond, et ça préjuge pas de comment on va terminer la saisine. Et puis d'autres médias sont violemment hostiles. Bon, il y en a 2 ou 3 qui nous ont répondu qu'on était illégitimes et qu'on servait à rien et qu'on était de toute façon des méchants et des liberticides et tout ça. Bon, c'est pas bien grave. On continue quand même. Il y en a même qui nous ont menacé de procès si on continuait. On a quand même continué. C'est pas grave.
C'était qui ces médias, Patrick Evenot? C'était Le Point? C'était qui?
Non, pas Le Point. Le Point, on ne nous a jamais saisis sur Le Point.
Je veux dire pourquoi je les cite. On va entendre le point, parce que l'an dernier, au moment de la naissance de ce conseil, il y a plusieurs médias, de nombreux journalistes qui l'avaient critiqué. C'est né de la volonté du pouvoir politique, disaient-ils, et pourtant ils ne l'ont pas soutenu, ce qui, selon eux, rendait le conseil illégitime. Un argument encore porté cette année, par l'un de vos opposants, c'est le directeur du Point, j'en parle à dessein, Étienne Jernel. Il est joint par Louise Bernard.
C'était une idée idiote qui aboutit à rien, puisque ce sont des gens dont la légitimité est proche de zéro. D'ailleurs, personne n'a de légitimité en la matière. Ceux qui jugent le travail des journaux, ce sont leur public, leurs lecteurs, d'une part, et d'autre part, la justice. Il y a quelque chose qui contrevient à la loi, auquel cas, ce sont des magistrats dans le cadre de procédures déterminées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Tout ce qui s'ajoute à cela est nul et non avenu.
Étienne Jernel, le directeur du Point, que lui répondez-vous, Patrick Evenot ?
Alors, je lui réponds que ce qui dépend de la loi de 1881, nous, on ne s'en occupe pas. Quand il s'agit d'injures, de racisme, etc., on dit saisissez la loi, le tribunal correctionnel, la 17e chambre. Nous, on s'occupe du rapport entre. Les médias, c'est quoi ? C'est une entreprise avec une rédaction et qui a un public. Et c'est, il faut qu'il y ait une espèce d'harmonie entre les trois, qu'il y ait un dialogue entre les trois. Mais il faut qu'il y ait un tiers de confiance extérieur. Ouais. C'est ça, le Conseil de déontologie. Il existe dans 20 pays de l'Union européenne, c'est pas pour rien. Et c'est pas liberticide, comme le pensent un certain nombre de gens. Il y en a en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Norvège, etc.
Et au Canada.
Enfin bon, on peut pas dire que ce sont des pays qui soient très autoritaires. Mmh. Voilà.
Qui sont les médias qui vous ont menacé de porter plainte ?
Ah... Je ne sais pas si j'ai pas un droit de réserve là.
Bah allez-y, dites-le.
Non. Mais on peut imaginer, c'est les médias qui
non, on peut pas imaginer, parce que justement, à sa création, vous avez été soutenu, par exemple, par des gens comme Jean-Luc Mélenchon, qui appelait de ses voeux la création d'une telle commission que la vôtre.
Il voulait un conseil beaucoup plus strict, avec des possibilités de sanctions, etc. Nous, d'abord, on fait jamais de censure.
Je vais poser ma question différemment. C'était plutôt des médias à droite ou c'était plutôt des médias à gauche ?
C'est plutôt, on peut dire que c'est plutôt des médias à droite.
Comment ça se passe concrètement auprès de ce conseil de déontologie journalistique ? Quels cas précis rendus ? 17 avis ont été rendus, 17 procédures. Comment ? Patrick Evenot nous raconte, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Les occasions de prendre la route se sont faites rares. Préparez-vous à retrouver vos habitudes, vos passions et à rouler vers de nouvelles expériences à bord de votre Lexus hybride. Et pour faciliter ce retour, bénéficiez jusqu'à 5000 euros de remise sur les Lexus hybrides disponibles immédiatement. Rendez-vous dans votre centre Lexus ou sur lexus.fr. Ouvert ce week-end. Offre aux particuliers non cumulable sur une sélection de véhicules en stock en concession. 5000 euros pour la commande d'une Lexus IS hybride neuve jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant. Autre modèle et détails sur lexus.fr.
Et si à Noël avec Orange, on s'offrait des forfaits giga illimités compatibles 5G ?
Moi, Noël, je m'offre un forfait giga illimité compatible 5G.
Ok, mais moi je fais plus fort, je profite de mes gigas illimités sur tous mes objets connectés.
Ouais, mais mon illimité est encore plus illimité. Ok ?
Pour Noël, profitez des forfaits giga illimités compatibles 5G, incluant jusqu'à 3 cartes SIM. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Valable jusqu'au 5 janvier, giga illimité en France métropolitaine, engagement 12 mois minimum. Forfait compatible avec le réseau 5G d'Orange à partir de décembre 2020 dans les zones déployées. Conditions et couverture sur orange.fr.
Leclerc. Le Black Friday, c'est l'occasion de décorer votre maison et de préparer dès maintenant vos cadeaux de Noël à prix Leclerc.
Et du 30 novembre au 2 décembre, à l'occasion du Black Friday chez Leclerc, bénéficiez de 40% de tickets Leclerc sur tous les jouets et toute la décoration de Noël. Oui, 40%, vous ne rêvez pas. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours, hors sapin naturel. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Ensemble, respectons les gestes barrières.
Ah, le courage, mon Robert. Plus que 8 terres de bois coupées. Et on sera bien pour cet hiver. Et t'oublieras pas de tout ranger nickel, hein.
Sinon, vous pouvez aussi faire poser une pompe à chaleur avec AF2R. Pompe à chaleur Chappé, Atlantique ou LG. Faites de vraies économies d'énergie et gagnez en confort de vie avec AF2R Environnement. Testez dès maintenant votre éligibilité aux aides de l'État.
Bah, Robert, où tu vas ?
Retrouvez-nous sur af2r-environnement.com et 01 82 30 15 69. 82 30 15 69.
Dans vos magasins U, c'est Noël avant Noël. Il y a 4 millions d'euros carte U à se partager avec les tickets d'or. Marie, hôtesse de caisse, nous dit tout.
Oui, Laurent. En faisant vos courses avec votre carte U, tentez de gagner jusqu'à 50 euros carte U en grattant un ticket d'or.
Jusqu'à 50 euros carte U ? Chez U, c'est vraiment Noël avant Noël.
U. Commerçant autrement.
Jeux avec obligation d'achat jusqu'au 12 décembre. Réservé aux clients carte U. Conditions et règlements sur magasinu.com.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Patrick Evenot, président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, organisme qui fête son premier anniversaire aujourd'hui, jour pour jour. 17 avis ont été rendus par le Conseil, 17 procédures au cours desquelles les médias ont eu la possibilité de répondre aux reproches qui leur étaient faits. 17 seulement en un an, alors que vous avez reçu 123 demandes de saisine. Pourquoi aussi peu d'avis rendus ?
Alors, parce que même on est beaucoup plus maintenant parce qu'il y a des saisines en groupe. Il y a des gens qui... Alors on a par exemple sur deux cas, on a à chaque fois 75 saisines. Bon, ils disent tous la même chose, donc on le considère comme une seule.
D'accord.
On regroupe tout. Bon. C'est sur 87 actes journalistiques. Pourquoi aussi peu d'avis ? Parce qu'on a eu du mal à démarrer au départ, avec en plus avec le Covid, etc. Enfin bon, c'était un vrai problème. Puis là, il a fallu... Bon. Là, on va en rendre deux autres ou trois autres début décembre. On a une réunion le 8 décembre, donc on va en rendre deux ou trois autres. Pourquoi si peu ? Parce qu'il y a beaucoup de saisines qui sont irrecevables. Il y en a une cinquantaine, 60 presque, qu'on considère comme irrecevables. Et à chaque fois, on explique à la fois aux médias, aux journalistes et aux requérants ou à la requérante pourquoi on considère que c'est irrecevable.
Parce que vous disiez, comme par exemple, tout à l'heure, voilà. Une insulte à caractère raciste est de toute façon réglée par la justice.
Voilà. Et puis, on a fait 6 cas de médiation. Ce qu'on appelle médiation informelle, c'est-à-dire qu'on dit voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très grave, c'est un titre mal foutu, etc. Quelqu'un se plaint, on envoie la plainte aux médias et on envoie la réponse aux requérants en disant voilà, bon, c'est vrai que c'est mal foutu, mais c'est pas pour ça qu'on va quand même faire tout un truc. Bon.
17 avis, seulement 5 saisines fondées, je vais les citer, le Huffington Post, Valeurs Actuelles, France 24, Sud-Ouest et LCI, pour la présentation discriminante d'un avocat, pour ne pas le citer, il s'appelle Yacine Bouzrou. Quel est votre bilan, votre sentiment ? Vous avez l'impression que les médias sont quasi irréprochables en matière de déontologie ?
Non, alors il y a deux biais. Le premier biais, c'est qu'on ne répond pour l'instant que à des saisines. Donc il faut que le public s'empare de l'outil CDJM pour qu'on puisse répondre à plus de saisines.
Je vous interromps d'un mot. Comment on s'empare de l'outil CDJM ? CDJM.com, CDJM.fr ?
CDJM.org. .org. C'est une association.
Voilà.
Et puis dessus, il y a saisir le CDJM. On remplit le questionnaire et ça va très vite.
Donc déjà que le public s'empare de cet outil.
Voilà.
Ensuite ?
Ensuite, il y a des saisines qui sont non fondées, des saisines qui sont fondées, mais il y a aussi des saisines qu'on estime partiellement fondées. Par exemple, quand quelqu'un a écrit au journal en disant « voilà, vous m'avez maltraité, etc. » et que le journal a repris le dialogue et a fait un rectificatif, le premier article était fautif du point de vue déontologique, mais ils ont rectifié derrière, donc on ne peut pas dire que c'est une... Donc c'est une saisine partiellement fondée, ou à moitié, on pourrait
compris.
Dire, enfin, voyez. Bon, voilà. Alors, les fondés, bon, c'est quoi ? Bah, par exemple, l'interview du boulanger lyonnais par Emmanuel Macron. Boulanger lyonnais qui est...
Dont on croyait que c'était un boulanger anonyme, je cite ça de mémoire, et puis on s'est rendu compte qu'il avait fait partie de son comité de soutien, où il travaillait avec Gérard Collomb, je me trompe de mer de Lyon.
Il n'était pas anonyme du tout, et donc, voilà. Donc il y avait confusion de bon. D'ailleurs, le média a mis quelque chose après, parce que l'intérêt, c'est que le média qui a pu faire une erreur, parce que s'ils avaient vérifié un peu plus rapidement, ils n'auraient pas fait... Qu'après, ils mettent sur le site internet, bon, voilà, on s'est trompé.
Je vais me faire l'avocat de vos opposants. Ils disent que si les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs sont heurtés, sont choqués, sont mécontents du traitement de l'info, ils écrivent à leur journal, ils l'attaquent en justice lui-même. Par exemple, le lecteur d'un journal qui voit que le boulanger prétendument anonyme qui soutient Emmanuel Macron faisait partie de son comité de soutien, on peut directement écrire au journal, pas besoin de passer par vous. Que répondez-vous à cet argument ?
Bien sûr qu'on peut, mais dans beaucoup de cas, d'une part, les citoyens ne savent pas comment écrire, à qui, quand, etc. Pour tout ce qui est la loi, ils savent pas saisir, ils savent pas, ils ont pas le bagage juridique. Bon, ils vont pas prendre un avocat pour un article mal foutu. Et puis, dans beaucoup de cas, ça ne dépend pas de la loi. C'est simplement le respect des personnes ou etc.
Ouais.
Donc,
Je vais revenir quelques instants aux critiques qu'on peut être agressé au CDJM. Certains pensent, je l'ai dit, que c'est pas aux journalistes de critiquer les journalistes, ni même aux auditeurs et aux diffuseurs. Et c'est un vieux débat. Exemple, cette archive Europe 1. Nous sommes en avril 1979. Donc, je fais ça de mémoire, 41 ans. Un sénateur, Henri Caillavet, propose une loi d'orientation de la presse. Il est interrogé par Yvan Levaille.
Concrètement, est-ce que vous voulez, comme certains, un conseil de l'ordre des journalistes pour nous juger quand la police et la justice considèrent que nous faisons des bêtises, ou est-ce que vous voulez autre chose ?
Je ne souhaite surtout pas un conseil de l'ordre pour les journalistes. Je pense d'ailleurs qu'ils ne le veulent pas. Dès lors, j'ai imaginé la création d'une commission plénière devant laquelle pourraient venir s'expliquer les journalistes lorsqu'ils sont concernés par le secret, par les sources d'informations et tenues au secret. Dès lors, cette commission pourrait autoriser le journaliste à être délié de ses obligations de secret et partant pouvoir témoigner.
Là, c'est la révélation des sources qui pose problème, mais la question d'un conseil existait déjà il y a 41 ans.
Oui, ça fait bien longtemps. Le gouvernement de Vichy a essayé de créer un conseil de l'ordre. Bon, évidemment, il ne faut pas de conseil de l'ordre. On est au sein de la liberté d'expression, on est au sein du droit du public à être informé. On ne doit surtout pas d'ingérence de l'État. Il n'y a pas de... Bon, voilà, on est dans le cadre d'une démocratie et il faut qu'on y reste.
Ouais. Il n'est pas dans les attributions de votre CDJM d'intervenir a priori dans les débats qui concernent des procédures législatives ou des débats de société, mais vous demandez le retrait de l'article 24 qui fait peser de lourdes menaces sur la liberté d'informer. On parle évidemment de la loi Sécurité Globale. Vous écrivez ceci. Les dispositions de proposition de la loi Sécurité Globale ne peuvent qu'affaiblir le crédit des médias traditionnels et de la confiance du public au profit des vérités alternatives et de la théorie du complot. Votre argument ?
L'argument, c'est que la liberté d'expression doit rester entière. Hein. C'est ça, vraiment, on est au sein de la démocratie, on est protégé par à la fois la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc. On est dans ce sein-là. Mais là, la diffusion des images, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que les journalistes, le public, puissent s'appuyer sur des faits. Et les images sont des faits, et on a bien vu le cas avec Michel Zecler. Hein, bon, ce sont des faits qui sont montrés. Après ça, c'est à la justice de se prononcer. Mais si on n'avait pas de caméra pour filmer ça, eh bien, ça serait passé comme ça, en douce. Michel Zecler aurait été accusé de rébellion, etc., et mis en prison. Enfin bon, bref. Là, ce sont ces faits-là qu'il faut rendre au public, parce que le droit du public à être informé, c'est le fondement même de la démocratie. Dans une démocratie, si le public n'est pas informé, la démocratie ne vit pas.
Et si le public veut saisir votre organisme, cdjm.org, je le répète, cdjm.org. Merci beaucoup Patrick Evenot. Vous êtes le président du CDJM, le conseil de déontologie journalistique et de médiation. Merci d'avoir été avec nous un an après pour ce premier bilan. Merci beaucoup.